l'inconnu dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, la crise sécuritaire au Mali met en péril le secteur de l'élevage, mais des mesures d'appui redonnent espoir aux éleveurs. Nous verrons aussi comment le vol de bétail au Sahel est devenu une source de financement lucrative pour les groupes terroristes. Les réfugiés soudanais au Tchad appellent à renforcer la sécurité dans les camps face aux agressions sexuelles. Au Burkina Faso, une association des victimes des attentats terroristes œuvre pour la prise en charge des survivants et la sensibilisation aux problèmes psychologiques. Burkina Faso signe une charte établissant une alliance de défense collective avec le Mali et le Niger, l'alliance des États du Sahel. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. L'élevage prédomine en zone rurale dans le centre du Mali, mais ces dernières années, l'insécurité et les vols de bétail ont gravement affecté ce secteur. Selon une étude locale de la Direction régionale de l'agriculture, plus de 200 000 têtes de bovins et d'ovins ont été dérobées lors d'attaques perpétrées par des groupes armés. L'État malien, ses partenaires, s'efforcent de soutenir les éleveurs dans la reconstitution de leurs troupeaux. Depuis Koro, voici la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont les piliers de l'économie dans les centres du Mali. Les cheptels en provenance de la région ravitaillent les marchés de Bamako et des pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bouram Guindo profite bien du secteur depuis des années.
J'achète les bovins ici pour les vendre à Bamako, Abidjan et Dakar, surtout à la veille des fêtes de Tabaski.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, le secteur de l'élevage a été touché de plein fouet. Comme Drissa Tapili, beaucoup d'éleveurs ont perdu leur bétail suite aux attaques terroristes.
Ils sont venus vers le petit soir attaquer le village. Après leur forfait, ils sont repartis avec plus de 200 têtes de bétail.
Selon lui, l'élevage était un secteur profitable à cause de son apport sur le plan économique.
L'élevage était pour nous, à titre d'exemple, on pouvait vendre les bovins pour acheter des céréales en période de soudure. On les vendait aussi pour financer les cérémonies de mariage au village.
Selon une étude de la Direction régionale de l'agriculture, plus de 200 000 têtes de bovins et ovins ont été volées dans les cercles de Badiangara, Bankas et Koro, affectant du coup l'approvisionnement du lait local sur les marchés. Mariam Diko est l'une des rares femmes à vendre du lait local dans la ville de Koro. Son mari traite le lait chaque soir après le pâturage.
Mon mari traite le lait et je le vends pour subvenir aux besoins de la famille. On trouve nos condiments grâce à la vente du lait. On profitait bien de l'activité avant la crise sécuritaire. Maintenant, le lait est rare et le prix est à 700 francs.
Comme Alassane, beaucoup peinent à acheter des ovins pour les cérémonies de mariage ou baptême à cause de la flambée du prix sur les marchés.
Je suis venu acheter un mouton, mais j'ai pas pu à cause du prix élevé. Vraiment, l'État doit prendre des mesures contre les revendeurs, sinon à ce rythme, on ne peut plus payer des bétails dans le marché.
Pour reconstituer les cheptels dans le centre du pays, l'État et ses partenaires techniques et financiers accompagnent les éleveurs. Djenemou Dolo est une bénéficiaire.
J'ai bénéficié de 2 sacs d'aliments bétail et de médicaments. C'est pour encourager les acteurs de l'élevage dans les zones de crise.
L'élevage jouait un rôle important dans la création des richesses et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Beaucoup fondent l'espoir pour la redynamisation de l'élevage dans les centres du Mali. Tidjani Ouédraogo pour VOA Afrique, Koro.
Nous sommes en ligne avec Tidjani Ouédraogo pour continuer la discussion sur les défis auxquels font face ces éleveurs. Tidjani, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, comment les éleveurs et les habitants de la région du centre du Mali envisagent-ils l'avenir de leur élevage face à cette insécurité et à ce vol de bétail?
Vous savez que l'élevage est la deuxième activité économique après l'agriculture, mais avec ces attaques qui continuent dans les centres du Mali, il serait très difficile d'envisager l'avenir du secteur. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies à cause de l'insécurité. Ici, que tu sois éleveur ou agriculteur ou que tu évolues dans un autre domaine, le souhait de tout le monde est le retour de la paix et de la stabilité pour pouvoir envisager l'avenir.
Alors, l'État malien et ses partenaires ont pris des mesures pour soutenir ces éleveurs. Est-ce que ces mesures sont rassurantes et suffisantes à long terme selon ces éleveurs en vue de rétablir, disons, durablement le cheptel et restaurer la stabilité économique des communautés rurales affectées par ce vol de bétail?
En tout cas, dans l'immédiat, on peut dire que c'est rassurant. Les partenaires, l'État et ses partenaires sont en train de soutenir les éleveurs ici dans les centres. À titre d'exemple, dans la semaine même, il y a des éleveurs qui ont bénéficié des kits d'embauche et des aliments bétail pour les appuyer dans les permettant de reconstituer les cheptels. Il y a d'autres ONG aussi qui ont offert des bovins, surtout à des femmes déplacées pour pouvoir les permettre de faire les activités de réinsertion économique. Mais tout cela est difficile quand on voit qu'il n'y a pas de libre de circulation des personnes et des biens ici dans les centres, alors que l'élevage aussi est basé sur la transhumance. Il est difficile de faire la transhumance à cause de l'insécurité. Et tout cela prouve à suffisance que l'avenir du cheptel serait très difficile tant qu'il n'y a pas cette stabilité dans les centres ici, Eric.
Merci beaucoup, Tidjani Ouédraogo, pour toutes ces précisions. Je signale que vous êtes notre correspondant sur place. Il est donc essentiel de lutter contre le vol de bétail dans le centre du Mali et au Sahel pour revitaliser le secteur de l'élevage. Et nous approfondissons la discussion avec Flore Berger, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest, au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Flore, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, expliquez pourquoi, si on veut comprendre le conflit au Sahel aujourd'hui, il faut absolument prendre en compte le vol de bétail comme partie intégrante de la compréhension du conflit.
Oui, c'est vrai que le vol de bétail, c'est un élément central aujourd'hui des conflits au Sahel. En fait, le point clé, c'est que le vol de bétail alimente l'insécurité et vice-versa, l'insécurité alimente le vol de bétail. Donc les deux se renforcent et plus la violence augmente, plus les incidents de vol de bétail aussi. Et ça se fait de plusieurs manières. Donc déjà, les communautés vont essayer de se protéger contre ces pillages et donc vont soit rejoindre des milices d'autodéfense, soit des groupes armés. En tous les cas, elles vont s'armer pour se protéger. Et donc, on a vu l'explosion des violences entre les communautés depuis 2019 pour ce qui concerne le centre du Mali. Ensuite, aussi quand même, c'est voilà la destruction des moyens de subsistance de ces populations. Donc ça les force à se déplacer, soit à accepter les conditions de vie qui sont imposées par les groupes armés. Et puis finalement, très directement, c'est une source importante de financement des groupes armés. Vraiment, l'ampleur est difficile à estimer, mais quand on parle de 200 000 têtes volées pour les trois districts seulement les plus affectés de la région de Mopti au centre, ça veut dire que si on fait des estimations au niveau du prix de vente par tête, on se rend vite compte qu'au niveau national, donc du Mali, on parle d'un marché qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars par année, donc très important en termes de financement.
Et qui sont les acteurs derrière ce vol de bétail et comment fonctionnent ces réseaux organisés chargés de vendre le bétail volé?
Oui, alors la première chose à noter, c'est vraiment que toutes les parties au conflit pillent le bétail. Donc que ce soit les groupes armés extrémistes, les groupes d'autodéfense, les armées aussi nationales quand même, il faut le souligner, de ces pays du Sahel. Par contre, c'est pas eux-mêmes qui ont leur propre réseau et qui c'est pas eux qui s'occupent de la vente. En fait, il y a des réseaux spécialisés avec des intermédiaires, des transporteurs, des commerçants, des bouchers, etc. C'est des réseaux qui sont actifs bien avant, depuis la crise actuelle. C'est actif depuis les années 1990 environ. Et ils sont connectés et travaillent avec tout le monde. Donc, ils n'ont pas forcément d'allégeance. Ensuite, il y a un niveau local. Donc, parfois, le bétail volé est abattu et vendu rapidement dans la zone. Mais il y a aussi, comme on l'a déjà été mentionné, donc le Mali qui est un exportateur de bétail très important. C'est le deuxième plus grand exportateur en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Donc il y a tout un circuit au niveau de la région avec le bétail qui est blanchi dans des grands marchés. Donc ça veut dire qu'il est mélangé en fait au bétail non volé et qui est ensuite vendu, par exemple du bétail volé au centre du Mali peut se retrouver vendu et consommé à Abidjan par exemple.
Et quelles sont les réponses apportées par les gouvernements nationaux ou par les partenaires régionaux ou internationaux?
Oui, alors au niveau des réponses, je veux dire que pour les États du Sahel, et quand même la réponse au vol en lui-même est assez limitée. Il y a assez peu d'initiatives parce que simplement, en fait, les autorités sont vraiment prises par la lutte contre les groupes extrémistes et donc on est vraiment dans le tout sécuritaire. Donc ce qu'on voit parfois, c'est les forces armées qui récupèrent du bétail volé et qui le rendent. Mais sinon, ça va pas vraiment au-delà de ça en termes de réponse apportée. C'est un peu la même chose au niveau des partenaires internationaux. Par exemple, c'est pas considéré comme un élément clé pour la stabilisation. Ça fait pas partie, par exemple, de stratégie régionale ou internationale. Par contre, là où il y a des efforts fournis, on en a déjà entendu un peu parler, c'est au niveau de la société civile, au niveau des communautés, avec l'aide d'ONG ou d'organisations internationales. Et là, on a justement la gestion de la transhumance pour que ça se fasse de manière plus pacifique, avec des balises. On a la construction de parcs à bétail aussi pour que les animaux soient sécurisés pendant la nuit. Toute une série d'activités de dialogue aussi, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est lié beaucoup au conflit entre communautés et donc favoriser la cohésion et le dialogue. Et puis, il y a des initiatives assez intéressantes au niveau du Liptako-Gourma, donc cette région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, pour mettre en contact, en fait, les éleveurs de part et d'autre des frontières et éventuellement retrouver le bétail volé, même lorsqu'il est acheminé à l'étranger.
Alors, vous avez sorti un rapport sur cette question très complexe. Quelles sont les leçons à tirer des expériences d'autres régions confrontées à des problèmes similaires de vol de bétail et de financement du terrorisme et comment peuvent-elles être appliquées efficacement au Sahel en moins d'une minute?
Oui, alors on a en effet un rapport qui s'est concentré sur le Mali et on en a fait un autre au Nigeria. Donc je vais utiliser peut-être ce cas pour expliquer. Donc le contexte est complètement différent, mais on peut quand même noter que le gouvernement nigérien est plus actif sur la question. Ils ont par exemple créé une task force dans la police qui est spécifiquement dédiée au vol de bétail. Et donc ça aide vraiment à la coordination ça va vraiment des investigations, aux arrestations, aux patrouilles, etc. Et donc je pense que ça peut être une bonne idée pour les gouvernements sahéliens éventuellement de mettre en place une telle task force.
Flore Berger, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Merci pour votre perspective et pour votre analyse.
Merci à vous. Au revoir.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Au Tchad, les réfugiés soudanais installés dans le nouveau camp de Farshana, dans la province de Wadaï, expriment des inquiétudes concernant leur sécurité, en particulier les femmes qui signalent des agressions sexuelles, les contraignant à éviter de quitter le camp pendant certaines heures. Ces réfugiés appellent les autorités tchadiennes et leurs partenaires à garantir leur sécurité. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril entre deux généraux rivaux, le Tchad continue d'enregistrer un afflux de réfugiés soudanais et de Tchadiens rentrés du Darfour. Au 11 septembre, l'OICR affirme avoir enregistré plus de 418 nouveaux réfugiés sur le sol tchadien. Installés dans les provinces du Wadaï, du Wadi Fira et du Sila, ces réfugiés et retournés tchadiens vivent toujours le cauchemar qui les rappelle la situation qu'ils ont vécue au Soudan, comme en témoigne au micro de VOA Afrique, Mohamed Issaka Moussa, président du nouveau camp de Farshana.
Il se passe des choses horribles dans ces camps. Chaque jour, des personnes inconnues cherchent à violer nos femmes. C'est le cas d'une femme qui a failli être victime lorsqu'elle revenait du marché, n'eût été la vigilance des passants avec son bébé au dos. La scène s'est déroulée à côté même de l'ancien camp des réfugiés. Quelquefois, il y a eu aussi des bagarres rangées entre les réfugiés à l'intérieur du camp. Et que nous appelons les agents de sécurité au secours, ils ne viennent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Finalement, nous sommes traumatisés.
Madame Fatma Adam Mahamad, qui a perdu son mari et son beau-fils dans la guerre au Soudan, confirme les violences et exige des autorités tchadiennes plus de sécurité.
Comparativement à la situation que nous avons vécue au Soudan, nous sommes mieux ici, mais nous avons un sérieux problème de santé et quelques poches d'insécurité. Il n'y a pas de centre de santé ici dans le camp et en cas de maladie et que nous partons pour nous faire soigner en ville. Les gens nous agressent. À partir de 16h, heure locale, aucune femme ne peut sortir en dehors du camp, même pour aller chercher des fagots pour la cuisine. Nous demandons au gouvernement tchadien et au HCR de nous construire un centre de santé ici au camp pour nous éviter des problèmes avec les autochtones.
Le représentant de la CENAR, la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, par ailleurs gestionnaire du nouveau camp de Farshana, Tuki Alafouza, dit ne pas être au courant de l'agression sexuelle dont sont victimes les réfugiés.
Avant qu'ils rentrent dans la frontière, il y avait des femmes qui étaient violées. Ceux-là aussi, je crois qu'elles sont prises en compte par les services de EAS ou soit Oxfam pour le traitement, tout ça. Mais ici, nous avons ce qu'on appelle le détachement protection humanitaire. Beaucoup y sont opérationnels dans les lieux où de nouveau les réfugiés viennent. Mais entre et peut-être il y a des chamois. Ça, c'est des petits trucs que les leaders eux-mêmes ils ont en train de traiter.
Toutefois, Tuki Alafouza, représentant de la CENAR, reconnaît que les agents de sécurité sont en sous-effectif et plaide pour que les dispositifs sécuritaires soient renforcés.
Nous avons besoin de compléments des agents de sécurité parce qu'ils sont en moins effectifs. C'est vrai, il y a des forces autres qui ont amené, mais les missions opérationnelles sont devenues trop pour les escorts. Donc, on ne trouve pas parfois des véhicules qui sont sur place pour rapidement donner ce coup en cas de quelque chose dans le camp.
Si la guerre ayant occasionné les affrontements intercommunautaires se poursuit au Soudan, le gouvernement tchadien estime qu'il pourrait accueillir sur son territoire plus de 600 000 réfugiés soudanais et retournés tchadiens d'ici fin 2023. André Kodmajingar, de retour de Farshana, province du Wadaï, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont conjointement signé samedi la charte du Liptako-Gourma, instaurant ainsi l'alliance des États du Sahel. L'objectif de cette initiative est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Selon les termes de la charte, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera ainsi une obligation d'assistance et de secours de la part de toutes les parties impliquées. C'est notre fait marquant de la semaine. Aubin Guébré, de notre station partenaire BEF1 à Ouagadougou, est avec nous en ligne pour en parler. Guébré, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Comment l'opinion publique réagit-elle à la création de cette alliance? Quel est son niveau d'enthousiasme ou de préoccupation à ce sujet? Et voit-elle une opportunité de renforcer la stabilité dans les trois pays?
Oui, et il faut dire que c'est une opinion partagée hein, ici au Burkina Faso. Il y a ceux qui applaudissent justement un acte qualifié de souverainisme qui trouve là un outil de mutualisation des moyens et des ressources militaires pour faire face plus efficacement au terrorisme. Et il faut le rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur les termes de l'article 6 qui parle clairement de défense justement et d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité qui sera donc considérée comme une agression contre les autres parties et qui va engager donc un devoir d'assistance. Donc, l'Alliance des États du Sahel est, pour cette partie de l'opinion, un outil de combat contre l'impérialisme et contre le terrorisme. Et puis, il y a cette autre partie de l'opinion qui pense qu'il s'agit là encore d'une entreprise populiste des jeunes au pouvoir qui veulent juste envoyer un message de dissuasion à la CEDEAO et à l'ensemble de la communauté internationale sur les velléités d'intervention au Niger et sur une quelconque volonté de déstabilisation des régimes militaires au pouvoir. Autrement, l'Alliance n'est rien d'autre qu'une arme de protection des pouvoir militaire. Il y a aussi ceux qui se demandent si le Mali, désormais entre deux feux, le terrorisme et la rébellion, ne serait pas dans une quête de soutien à travers cette alliance, histoire donc de mieux faire face au projet azawadien. Autre déception, c'est l'impression qu'il s'agit d'une affaire de président et non une affaire de population, puisqu'il n'y a pas eu de débat national dans ces trois pays avant la signature de la charte qui a fait l'effet d'une surprise ici au Burkina Faso.
Quelles sont les réactions des partis politiques et de la société civile à cette initiative?
Il faut dire que les partis politiques et la société civile, vous le savez déjà, sont muets depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré. Frappés par la mesure de suspension de leurs activités, ils ne prennent presque plus la parole pour s'exprimer sur la marche du pays, craignant justement des représailles. Il y a néanmoins l'ancien député Sankaris du parti progressiste uni pour le renouveau, Alexandre Sankara, qui trouve l'idée de l'AES audacieuse et pertinente. Il pense qu'elle s'inscrit dans la voie du fédéralisme prônée par le premier ministre burkinabé, maître Tchelem Apollinaire de Tambela.
En ce qui concerne la viabilité de cette alliance, quelles sont les attentes et les espoirs exprimés des Burkinabés quant à sa capacité à faire face aux défis sécuritaires communs? Je parle des ressources. Exprime-t-il des préoccupations sur le bras de fer entre ces pays et la CEDEAO?
Oui, Eric, c'est la grosse interrogation ici. Comment faire en sorte que cette initiative ne soit pas une coquille vide, ne reste pas juste un effet d'annonce pour emballer des populations en quête de repères? L'espoir, oui, parce que l'Alliance peut être un cadre de coordination, comme je l'ai dit, et de mutualisation des actions face aux défis, notamment sécuritaires, surtout dans la zone des trois frontières devenues no man's land. Mais les inquiétudes aussi, car de tels cadres ont existé, hein, mais leur opérationnalisation a toujours été problématique. Beaucoup d'annonces, peu d'actions concrètes. Les populations du Sahel sont habituées à cette ambiance et à l'ordre.
Nous avons un problème de connexion téléphonique avec notre interlocuteur Aubin Guébré de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou. Guébré, vous êtes de retour en quelques secondes pour finir votre pensée.
Tout à fait. Je disais que les populations donc restent dubitatives et attendent de voir, surtout sur la question de la mobilisation des ressources qui ont toujours été difficiles à faire en pareille circonstance. Et à l'exemple du G5 Sahel justement qui est là pour en attester, même si certains pensent que la France serait pour quelque chose dans l'échec du G5 Sahel. L'AES, elle, compte sur ses propres ressources. Alors nous, peut-être vers une mutualisation des budgets militaires dans ces trois pays, c'est la grande question ici.
Merci Aubin Guébré pour toutes ces précisions. Je signale que vous êtes de notre station partenaire BF1 à Ouagadougou. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous à Ouagadougou. On reste justement dans la capitale burkinabé où en 2016, cette ville a été frappée par des attaques terroristes pour la première fois. À la suite de ces attaques ciblant le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide, Une association de victimes s'est constituée, travaillant depuis lors à assurer une assistance efficace aux personnes affectées par ces actes terroristes. Pour plus de détails, suivez ce reportage réalisé par Gilles Dasta.
Des coups de feu actuellement entendus sur l'avenue Kwame Nkrumah.
15 janvier 2016, au JT du 20h de la RTB, les Burkinabés apprennent en direct que Ouagadougou subit une attaque terroriste. L'attaque du restaurant Cappuccino est la première dans la capitale. Bilan, une trentaine de morts, dont une dizaine de nationaux. Parmi les personnes tombées, il y a la sœur cadette de cet homme, Pascal Lankwande. Avec d'autres rescapés et les familles de victimes, ils vont fonder l'association des victimes des attaques terroristes. Objectif, aider les victimes.
Nous faisons aussi le plaidoyer au sein de l'administration pour quand même la résolution de certains problèmes, comme par exemple la prise en charge des orphelins ou la prise en charge des veuves des militaires tombés. C'est grâce à l'action de tous ces plaidoyers-là que nous avons pu quand même avoir certaines lois qui étaient en adoption à l'Assemblée. Bon, je pense qu'il n'y a pas plus d'un mois, le décret d'application de la loi sur les pupilles de la nation a été pris.
Depuis, les attaques terroristes vont se démultiplier au Burkina. D'une dizaine, l'association passe à plus d'une centaine de membres en quelques temps, avec un souci de premier ordre. Les problèmes psychologiques.
À la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont atteints et qui gardent ça en eux. Et je pense que nous devons agir de telle sorte à corriger cela. Sinon, nous risquons de créer dans le futur un autre phénomène dû au fait que nous n'avons pas pris en charge certaines choses. Ceux qui sont morts, d'accord, mais ceux qui sont vivants, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas vivants. Et là, il y a un problème.
Et ce problème, l'association va tenter de le prendre à bras le corps avec les moyens du bord.
Entre les membres, nous essayons de nous retrouver pour échanger, pour que chacun puisse parler de son problème. Et ce que nous appelons les séances d'échange et d'écoute, mais aussi ce que nous avons qualifié de vider le verre. Et souvent, vous tombez ou vous écoutez des problèmes que certains supportent et que vous ne savez pas. En ce moment, vous dites, il faut que je m'arme de courage pour aussi supporter ma charge. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des plus grosses charges que moi. Le Burkina ne possède pas beaucoup de psychologues formés dans ce domaine-là. Bon, l'idée, c'est quand même avoir une masse critique de personnes qui puissent accompagner ces victimes, même si ces personnes-là ne sont pas des spécialistes.
En attendant que cela se fasse grâce à d'éventuels soutiens, Pascal Lankwande et ses camarades travaillent à prendre en compte les différentes victimes du terrorisme au Burkina, partout où besoin est.
Nous sommes en train de travailler là-dessus pour déjà avoir une base de données de l'ensemble des victimes, même si ces victimes ne sont pas les membres de la structure, et voir comment est-ce qu'il faut arriver à les accompagner. Après la guerre, qu'est-ce que nous allons faire?
D'ores et déjà, l'association poursuit son combat malgré la situation difficile du pays. Au gouvernement, elle a fait une série de propositions concernant la prise en charge, l'accompagnement des veuves et orphelins, ou encore la reconversion des victimes du terrorisme. Quant aux autres membres de l'association, ils ont souhaité ne pas répondre à nos sollicitations, du fait du choc encore présent dans leur esprit. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Georges et Léonard Sagnon et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés dans Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.
Focus Sahel, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.